autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous demander jusqu'où nous entraînera l'imagerie biologique et médicale. IRM, PET scan, tomographie, échographie ont rendu notre corps transparent et tous ses organes visibles, en couleur, en mouvement et en 3D en plus, et jusqu'à l'échelle cellulaire ou moléculaire. Alors comment cette révolution de l'imagerie pour la santé, démarrée avec les rayons X, s'est accélérée ces dernières décennies avec les progrès de l'informatique et de l'intelligence artificielle? Et pourquoi ça change tout, la prévention, le diagnostic et les traitements? Comment cette approche non-invasive permet aussi de visualiser en direct l'activité du cerveau et son fonctionnement dès le ventre maternel, de suivre l'évolution d'une tumeur cancéreuse ou de guider les gestes d'un chirurgien? Quelles questions éthiques cela pose de mettre le corps en image? Pour reprendre le titre de l'ouvrage collectif coordonné par nos invités, la directrice de recherche au CNRS, Laure Blanc-Ferraud, spécialiste du traitement des images à Sophia Antipolis, et Damien Garcia, chargé de recherche à l'INSERM à Lyon, autour de la question « Jusqu'où mettre le corps en image et pourquoi c'est fascinant ?» Bienvenue.
Il y a un émerveillement face à l'observation vivante. Et réellement, l'organisation d'une cellule, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il y a énormément de structures très différentes, fibrillaires, circulaires, certaines très stables, d'autres très dynamiques, à l'intérieur des cellules. Et les cellules elles-mêmes prennent différentes formes, allongées, polyédriques, etc. Et les tissus eux-mêmes vont se développer de cette façon-là. Donc oui, cette diversité de la forme dans le vivant, c'est quelque chose qui est venu depuis longtemps. Mais comment on est capable, nous, maintenant, de regarder avec un ensemble de couleurs différents, puisque chaque structure, on va la marquer avec une couleur particulière, ça donne des tableaux, et même pour un néophyte, même pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on est en train de regarder, qui a un vrai côté esthétique. Je crois qu'il y a ce sens-là qu'on connaît bien pour l'astronomie, par exemple. Il y a des photos de galaxies ou autres qui sont magnifiques, et même si on n'est pas physicien, on est émerveillé par ça. Mais en fait, le vivant a la même capacité d'émerveillement, simplement il faut peut-être qu'on nous diffusions un peu plus ces images-là. Mais oui, il y a une vraie beauté dans le vivant. Et qu'on a tous en plus, c'est intéressant, c'est ce que je dis parfois dans des séminaires. Les gens, vous vous rendez compte, vous êtes comme ça, quoi. C'est beau, non ? On a cette beauté-là, tous.
On est tous beaux à l'intérieur. C'est le responsable scientifique du centre d'imagerie de l'Institut Curie à Paris, Franck Pérez, qui l'affirme. Et c'est aussi ce qui apparaît, entre autres, dans cet ouvrage collectif, Le corps en image, les nouvelles imageries pour la santé, que vous avez coordonné aux éditions du CNRS. Laure Blanc-Ferraud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Azur à Nice. Alors je précise, Laure Blanc-Ferraud, que vous êtes directrice de recherche au CNRS, au laboratoire I3S, informatique signaux système à Nice Sophia Antipolis, éminente spécialiste du traitement d'images. Est-ce que vous diriez, Laurence Blanc, comme Franck Pérez, que finalement, enfin, la beauté, l'esthétique, ça fait aussi un peu partie de votre travail de construction et de reconstruction d'images?
Alors, bien évidemment, on est content de reconstruire des très belles images, mais je crois que ce que ça illustre surtout, en particulier les images de biologie qu'on voit aujourd'hui, ces images sur fond noir avec des tas de petites structures de différentes couleurs, ça symbolise quand même les énormes progrès et la révolution qui a été faite dans l'imagerie pour la biologie, avec l'imagerie de fluorescence qui permet justement de marquer les différentes structures de la cellule de manière tout à fait sélective, ce qui n'était pas le cas avant où, avec des colorants, tout était marqué de la même façon et sur une image, on avait tout de la même couleur avec des contrastes, mais c'est tout. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment capable d'aller sélectionner des structures différentes et qui vont émettre, grâce à la fluorescence, dans différentes longueurs d'onde et qui vont donner ces couleurs qui sont effectivement magnifiques, mais pour lesquelles on cherche plutôt à avoir des informations les plus précises possibles et des informations quantitatives.
Bien sûr. Et quand vous parlez de fluorescence, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut rendre fluorescent et une fluorescence naturelle pour pouvoir éclairer et voir mieux l'intérieur, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. La première molécule fluorescente qui a été découverte, c'est la GFP, la Green Fluorescence Protein, qui a été couronnée d'un prix Nobel en 2008 pour sa découverte et ses applications pour l'imagerie, pour la biologie. C'est une molécule fluorescente qui existe à l'état naturel dans une petite méduse des fonds sous-marins qu'on est capable de synthétiser avec une structure d'intérêt dans la cellule, par exemple un filament d'actine qui est un peu le squelette de la cellule. Et la cellule va être vivante, va vivre avec ça, se diviser, continuer à vivre sa vie tranquillement, tout en ayant cette structure qui est fluorescente. C'est-à-dire que si on l'illumine avec un laser à une certaine longueur d'onde, dans le bleu, eh bien elle va émettre de la lumière dans le vert. Et il nous suffit de regarder avec le microscope et une caméra pour enregistrer ces très belles images. Et toutes les structures autour ne sont pas visibles. On ne voit que cette structure-là. Et oui, mais on peut marquer aussi le noyau de la cellule avec le DAPI qui va émettre en bleu, etc. D'où ces belles images.
D'où ces belles images et qui permettent d'aller voir ce qu'on ne voit pas, l'invisible. Bonjour Damien Garcia.
Bonjour.
Merci alors d'être en direct avec nous en studio. Vous êtes chargé de recherche à l'INSERM, au laboratoire Creatis de Lyon. Vous êtes spécialiste et spécialisé en imagerie ultrasonore et échocardiographie. Alors, on connaissait l'échographie. Enfin, moi, comme toute femme qui a été enceinte, je sais ce que c'est qu'une échographie et j'ai vu bouger mon bébé dans mon ventre. Mais qu'est-ce que c'est que l'échocardiographie et pourquoi ultrason ?
Alors, tout d'abord, je tiens à saluer les auditeurs et mes collègues de Creatis, laboratoire à Lyon.
Saluons-les.
Bonjour tout le monde. Donc, l'échographie, en effet, c'est l'imagerie commune que l'on a en tête, c'est celle chez la femme enceinte. Donc c'est effectivement l'imagerie la plus utilisée pour l'échographie donc des fœtus. Ça c'est, il faut savoir que ça s'est démocratisé, enfin c'est devenu la routine seulement dans les années 90. Alors que la technique d'échographie elle-même a été inventée dans les années 50. Et vous voyez, donc ça a pris un certain temps pour s'assurer qu'il n'y avait aucun effet secondaire ou en tout cas très négligeable chez les fœtus. Et une autre application très classique de l'échographie, c'est l'échocardiographie. C'est l'échographie appliquée à la cardiologie. Le but, c'est de voir le cœur. Donc, non seulement le voir tel quel, mais voir la dynamique du cœur. Et on peut également mesurer, peut-être qu'on en parlera un peu plus dans les détails ultérieurement, on peut également mesurer la vitesse du sang à l'intérieur du cœur, mais aussi dans les vaisseaux sanguins, par exemple. Donc, c'est l'une des applications de l'échocardiographie et de l'échographie Doppler.
Et ultrason, parce que tout ça se passe en ultrason.
Alors, les ultrasons, donc en effet, ce sont des ondes, c'est des sons, mais dans la gamme ultrasonore, donc que nous, on ne peut pas entendre. Donc, ce sont à l'inverse des techniques, par exemple, la technique d'imagerie la plus connue, je pense, pour le public, c'est les rayons X.
Oui.
Donc, ce sont
oui,
des radio, ondes, les exactement, radio, hein. Ces ondes radio. C'est des ondes électromagnétiques, c'est des photons, mais dans la gamme d'énergie X. Donc, ce sont des ondes qu'on appelle ionisantes. C'est-à-dire, si ces ondes ont trop d'énergie, elles peuvent altérer le tissu. D'où les protections que mettent les radiologues et d'où l'usage limité des rayons X. Les ultrasons, à l'inverse, sont des ondes mécaniques. Donc, dans le cas de l'imagerie, elles sont bien gérées et ne génèrent aucun dommage tissulaire. C'est donc une technique évidemment de choix, notamment pour les fœtus. Et aussi, c'est une technique qui est facilement portable, qui est rapide. Et c'est la seule technique d'imagerie avec laquelle on peut avoir rapidement la dynamique du cœur, par exemple.
Ah oui, donc c'est vraiment, on y reviendra, hein, c'est vraiment l'échocardiographie et l'échographie, c'est vraiment une technique d'imagerie qui est transportable et qui est facilement reproductible. Alors, quand on pense au corps en image, aux imageries pour la santé, il y a évidemment des mots qui viennent en tête immédiatement. L'IRM, imagerie à résonance magnétique, le scan, le PET scan. Je ne sais pas qui d'entre vous, est-ce que c'est Laure, est-ce que c'est vous, Damien, qui pourrait nous expliquer un petit peu. C'est innombrable, alors c'est magnifique, oui. Et c'est innombrable finalement les techniques d'imagerie. Lesquelles sont les plus utiles ou nous parleraient le
alors,
plus?
Elles sont toutes utiles, hein. C'est innombrable parce qu'elles ont chacune leur utilité. Donc les rayons X, par exemple, c'est très, très connu pour pouvoir voir les fractures. Donc il y a d'autres applications, mais c'en est une. Ensuite, le rayon X, c'est simplement une projection. Le rayon X, tel que la majorité des personnes connaissent, puisqu'on a, peut-être qu'on a une fracture, du coup on connaît cette radiographie classique, mm-hmm. mais il y a aussi le CT scan, donc ce sont des rayons X avec des capteurs et des émetteurs qui tournent autour du corps pour
ça,
avoir une image
CT
3D,
scan.
C'est le CT scan, ce qu'on appelle
en
ça.
En image 3D.
Exactement, donc dont l'une des utilités également, c'est bon, entre autres, hein, il y a beaucoup d'utilités, mais c'est avoir une vue du squelette par exemple. L'IRM, donc après se sont développées d'autres techniques, donc l'IRM, ce ne sont plus des ondes électromagnétiques, mais on utilise des propriétés, cette fois magnétiques du noyau, donc des noyaux, mm-hmm. en l'occurrence le proton, donc le proton étant un noyau évidemment qui est présent dans les molécules d'eau, donc il y a énormément de protons dans le corps humain, et on peut utiliser ces propriétés physiques pour en faire une image. Donc à la différence des rayons X, l'IRM est très très utile pour voir les tissus mous. Les rayons X s'arrêtent quand des tissus denses tels que l'os. L'IRM permet d'avoir des belles images des tissus mous. Donc vous voyez, il y a déjà, c'est très très complémentaire. Alors ça, ce sont des types d'imagerie fonctionnelles, mais il y a aussi structurelles où on regarde l'anatomie. Mais vous mentionniez le PET scan. Mm-hmm. Bon, je vais être bref. On pourra en parler plus tard si vous voulez. C'est des types d'imagerie fonctionnelles où on peut, avec ce genre d'approche, donc le PET scan, pour les auditeurs, c'est la tomographie par émission de positons. C'est une technique qui utilise des radioisotopes, donc c'est une technique qui fait partie de l'imagerie nucléaire. On utilise des radioisotopes, et le PET ou le TEP, c'est utilisé essentiellement pour détecter des tumeurs.
D'accord. Et parce qu'on peut voir des choses en mouvement et parce qu'on peut...
Non, c'est pas tout à fait ça. C'est que... des radioisotopes, c'est-à-dire on crée des traceurs que l'on rend radioactifs. Ces traceurs spécifiquement vont aller dans les tumeurs. Par exemple, une tumeur a besoin de beaucoup d'oxygène.
Et donc, on va repérer ces traceurs-là et c'est ça qui va permettre de suivre,
exactement.
De suivre
donc,
les tumeurs. Laure Blanc-Ferraud, vous vouliez réagir aussi?
Alors oui, indépendamment de chacune des types d'imagerie qu'a très bien décrite Damien Garcia, l'extraordinaire faculté de tous ces instruments, c'est en fait de pouvoir voir à l'intérieur du corps humain sans le couper en tranches.
Et c'est ça.
Et en fait, ils participent tous du même principe, c'est-à-dire qu'ils vont être différents en fonction des ondes qu'on va utiliser, du fait qu'on va regarder en transmission ou on va regarder l'onde qui va être réfléchie, de différentes choses. Mais mm-hmm. à la fin, ils participent tous de la même processus, c'est-à-dire c'est une reconstruction d'image. On n'a pas accès directement à l'image du milieu du corps humain, mais par exemple pour le scanner, comme l'a très bien décrit Damien, on va acquérir des radiographies à différents point de vue, donc sous différents angles, et c'est grâce à l'ensemble de ces différents angles qu'on est capable de reconstruire l'image à l'intérieur du corps humain. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les problèmes inverses, c'est-à-dire qu'il faut inverser. On sait tout à fait décrire mathématiquement la physique d'acquisition, c'est-à-dire si je vous donne un corps humain, je sais ce qu'il y a dedans, je fais traverser avec des ondes radio et je sais calculer les observations, je sais calculer toutes les projections. Et maintenant, on fait le problème inverse, c'est-à-dire qu'on acquiert toutes les observations autour du corps humain et tout notre travail, c'est de définir comment inverser ce système, donc l'équation mathématique de la physique d'observation, pour pouvoir retrouver et construire ces images. Donc toutes ces images sont en fait la combinaison subtile entre la physique, les capteurs, les mathématiques et l'informatique pour faire des logiciels de reconstruction d'images. Et bien sûr, in fine, les médecins et les biologistes qui doivent être dans la boucle depuis le début pour valider tous nos algorithmes et les images que l'on
propose.
C'est ça,
parce que vous, Laure Blanc-Ferraud, vous êtes au départ mathématicienne, informaticienne, vous travaillez en complète interdépendance, on va y revenir avec des biologistes et avec des médecins, mais vous le dites bien, c'est de la reconstruction d'images, et c'est vraiment lié, cette explosion, cette révolution de l'imagerie pour la santé, c'est vraiment lié aux avancées conjointes de l'informatique, du numérique, et on y viendra aussi bientôt, de l'intelligence artificielle, c'est ça, hein?
C'est tout à fait ça. Il faut quand même se souvenir que le traitement d'images, il y a une quarantaine d'années à peu près, il était naissant. Et c'est grâce au progrès technologique des ordinateurs et des capteurs qu'on a pu arriver à construire ces nouveaux appareils pour lesquels le numérique est C'est une co-construction entre les appareils et les algorithmes de reconstruction. Et il y a une quarantaine d'années, les seules images qu'on était capable de traiter, c'était des images 128 par 32 en noir et blanc. Et encore, il fallait être astucieux pour pouvoir mettre tout ça dans une mémoire vive qui était... 1000 fois moins importante que celle d'aujourd'hui.
Oui, d'où la rapidité, l'accélération, le développement de ces nouvelles imageries pour la santé autour de la question jusqu'où pourra-t-on mettre le corps en image et à quoi ça sert. Je propose tout de suite l'éclairage du professeur Rémi Slama, invité cette année au Collège de France sur la chaire de santé publique. Rémi Slama est épidémiologiste environnemental. Il travaille notamment sur l'impact des particules fines, des polluants environnementaux, des perturbateurs endocriniens sur le développement du fœtus. On l'écoute.
L'imagerie est essentielle pour la recherche en santé environnementale parce que c'est une manière de mieux comprendre le vivant, en général de façon non intrusive et pour la plupart des outils d'imagerie, à l'exclusion des rayons X et des examens qui s'appuient sur les rayonnements ionisants, de façon qui n'est pas dangereuse pour la santé. Et donc, ça va nous permettre de voir des paramètres biologiques de façon très efficace. Dans nos travaux sur l'exposition aux polluants atmosphériques ou aux perturbateurs endocriniens, on a pu comme ça mettre en relation l'exposition à certaines de ces substances avec la croissance du fœtus suivie par échographie. Dans les travaux sur les perturbateurs endocriniens de l'axe thyroïdien, hormone thyroïdienne qui est essentielle dans le développement du cerveau du fœtus, eh bien, on va pouvoir avoir de plus en plus recours à des examens d'imagerie cérébrale pour identifier peut-être des altérations soit de la morphologie, soit du fonctionnement du cerveau. Et même pour quantifier les expositions, on peut s'appuyer sur l'imagerie et notamment une des substances les plus nocives pour la santé, c'est le plomb, qu'on peut doser dans le sang et dans l'urine, mais il y passe relativement rapidement. En revanche, il est stocké dans les os. Et il y a un examen d'imagerie par fluorescence X qui consiste à irradier un petit peu à dose faible les os, par exemple au niveau du tibia. Et en fonction de l'image qui est réémise par l'os, d'en déduire la contamination au plomb de l'individu.
Rémi Slama, de quelle nouvelle machine d'imagerie vous rêveriez peut-être en tant qu'épidémiologiste environnemental?
Alors, c'est sûr que si on avait davantage d'outils d'imagerie qui nous permettaient de quantifier les expositions, non seulement aux facteurs physiques, ça c'est une première chose, mais aussi aux contaminants chimiques, sans avoir à faire des prélèvements invasifs et donc potentiellement en ayant une meilleure acceptabilité dans la population générale, ce serait fantastique. Et puis, si on pouvait aussi, comme certains collègues commencent à le faire dans de l'expérimentation au niveau animal, avoir de l'imagerie sur le fonctionnement des organes en temps réel, voire le fonctionnement des cellules, on pourrait voir des effets biologiques beaucoup plus subtils, peut-être de substances à des doses faibles, ce qui, là encore, pourrait augmenter potentiellement la sensibilité de nos études visant à caractériser les liens entre environnement et santé.
Laure Blanc-Ferrault, est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que vous imagineriez des machines d'imagerie qui pourraient servir l'épidémiologiste environnemental Rémi Slama?
Alors, moi, je suis plutôt sur l'imagerie pour la biologie. Mm-hmm. Et effectivement, nous, ce qu'on va chercher à avoir, c'est de l'imagerie la plus finement résolue possible, à des dimensions assez fines pour aller voir... non seulement les noyaux des cellules, mais aussi des molécules beaucoup plus fines, certains virus.
Carrément.
Voilà. Mais qui aujourd'hui ne sont pas visibles à l'imagerie optique de fluorescence dont on parlait tout à l'heure,
oui.
Parce qu'elle est limitée en résolution. Mais voilà, on essaye de mettre en œuvre des techniques dites de super résolution pour dépasser cette limite de diffraction et aller dans le vivant, à aller visionner les différentes structures de la cellule dans leur aspect éventuellement dynamique. Et toute la difficulté est d'avoir les quatre résolutions ensemble, c'est-à-dire les trois spatiales plus une résolution temporelle. Et en général, quand on en a une qui est bonne avec un certain appareil, et les deux autres ne sont pas forcément bonnes. Donc c'est souvent de l'affaire de compromis.
Ah oui, clairement, entre les trois dimensions spatiales, la dimension du temps, jusqu'où pourrez-vous nous entraîner dans cette résolution, jusqu'où nous entraînera l'imagerie médicale. On continue de s'interroger jusque dans l'IRM de Charlotte Gainsbourg sur RFI. Charlotte Gainsbourg dans son IRM sur RFI. Autour de la question jusqu'où nous entraînera l'imagerie médicale, nous sommes en duplex depuis les studios de France Bleu Azur à Nice avec la spécialiste du traitement des images, Laure Blanc-Ferraud, directrice de recherche CNRS à Nice, Sophia Antipolis. Et nous sommes en direct avec l'ingénieur de recherche à l'INSERM, Damien Garcia, autour de l'ouvrage collectif Le corps en images, paru aux éditions du CNRS. Tout de suite, arrêt sur l'image du cœur, ou plus exactement d'une échographie cardiaque. C'est votre spécialité, Damien Garcia. C'est aussi celle du docteur Adama Sawadogo, chirurgien cardiovasculaire au CHU de Tegandogo, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le docteur Adama Sawadogo était hier de passage à Paris. Il est chirurgien cardiovasculaire. Il est aussi assistant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Et il était de passage à Paris parce qu'il fait partie de la formidable chaîne de l'espoir. C'est le seul chirurgien du Burkina à opérer à cœur ouvert, grâce notamment, comme il nous l'explique, aux techniques d'imagerie et en particulier à l'indispensable échographie cardiaque. On l'écoute.
Donc l'échographie, mais disons l'imagerie en général, est au centre de la cardiologie. Avant les opérations cardiaques, on a besoin d'une bonne imagerie échographique pour mieux affiner le diagnostic, ce qui va guider le geste. Et pendant l'opération, avant le réveil du patient, le plus souvent nous utilisons une échographie dont la sonde est placée dans l'œsophage. Ça s'appelle échographie transœsophagienne pour apprécier le cœur donc au réveil. Et après le réveil du patient, et disons plusieurs mois après, voire plusieurs années, on a besoin de l'échographie pour le suivi et pour mieux décrire ce qu'on a fait comme réparation.
Donc pour vous, c'est indispensable, docteur Adama Sawadogo. Est-ce que les progrès, justement, de l'imagerie, de l'échographie qui s'affinent de plus en plus, est-ce que c'est utile pour vous et est-ce que vous pouvez en bénéficier sur place à Ouagadougou, à l'hôpital?
C'est très utile parce que le progrès des techniques en chirurgie cardiaque et le progrès de tout ce qui est innovation, et surtout en cardiologie comme la cardiologie interventionnelle, c'est intrinsèquement lié aux avancées et aux acquis de l'échographie. Au Burkina Faso et comme dans la plupart des pays subsahariens, heureusement que l'échographie, c'est un examen qui est disponible partout, même dans les hôpitaux petits, voire moyens. Le prix n'est pas exorbitant. La seule difficulté, c'est que c'est souvent opérateur dépendant. Sinon, c'est un examen qui n'est pas du tout invasif. On peut le répéter autant de fois qu'on veut, sans aucun danger pour la santé.
Et quand vous dites opérateur dépendant, ça veut dire qu'il faut que les gens soient formés et puissent maintenir les appareils, c'est ça?
Oui, parce que la même lésion peut être décrite différemment d'un opérateur A qui est moins entraîné qu'à un opérateur B qui est plus performant. C'est pourquoi il faut former davantage et de toutes les façons, on a les spécialisations en imagerie générale puis en imagerie spécifique.
Est-ce que vous rêveriez, docteur Adama Sawadogo, vous qui opérez à cœur ouvert, hein, vous qui êtes un chirurgien cardiaque, qui faites partie de la chaîne de l'espoir, est-ce que vous rêveriez d'une machine pour voir mieux le cœur de vos patients que vous opérez?
Effectivement, grâce à la chaîne de l'espoir, nous avons un programme de formation continue en échographie et en expertise de cardiopédiatrie. Disons que chaque deux semaines, nous convoquons près de 30 enfants qui sont recheckés à notre niveau. Et il y a des experts qui sont connectés en France ici et qui nous aident au diagnostic et également pour les indications, c'est-à-dire quelle est la technique chirurgicale la plus adaptée. Donc effectivement, bon, nous rêvons un jour donc, d'avoir, que ce soit en virtuel ou en réel, un appareil ou quelque chose qui puisse nous aider directement à voir le cœur en dynamique.
Damien Garcia, serait-il possible de voir en virtuel le cœur en dynamique comme le souhaiterait le docteur Adama Sawadogo?
Alors oui, il y a beaucoup de choses à dire sur son interview. C'est vrai que dans les pays en voie de développement ou on dit moins avancé, Donc l'accès à l'imagerie médicale est problématique. Et il y a aussi l'accès au personnel qualifié. Par exemple, il y a beaucoup moins de radiologistes. Il y en a 50 fois moins par million d'habitants dans ces pays que dans les pays développés. Vu les coûts des CT scans, les coûts des IRM. Donc, comme il a mentionné, en effet, l'échographie, c'est l'imagerie la plus utilisée dans ces pays. Pour plusieurs raisons, parce que le coût c'est 10 fois moins élevé. Et en effet, la formation, bien qu'il mentionne, il faut certaines formations nécessairement.
Bien sûr.
Mais la formation est moindre en général que les autres techniques d'imagerie, parce qu'il faut tout un personnel qualifié autour. Et pour lui, l'échographie étant le seul outil, on s'attend à ce qu'ils veulent encore obtenir plus de détails. Donc, en effet, le côté dynamique avec l'échographie standard, on peut obtenir des coupes 2D cardiaques. Donc, c'est ce qu'utilisent les cardiologues. On a à peu près, je donne un ordre de grandeur, 10 à 15 images par seconde. Mm-hmm. Pour des chirurgies, donc si j'ai bien compris, s'il fait de la chirurgie en pédiatrie, donc c'est des problèmes cardiologiques complètement différents de ce qu'on a chez les adultes. C'est souvent des maladies congénitales, donc qui en effet nécessitent une opération pour la survie de l'enfant, ou en tout cas pour augmenter son espérance de vie. Et il s'attend à avoir une meilleure image 3D, et si possible en dynamique, du cœur, donc par échographie. Donc actuellement, il y a beaucoup de recherches à ce sujet, on appelle ça l'échographie ultra rapide. Donc en 2D, on va dire que c'est bien maîtrisé en échographie 2D, c'est-à-dire je mentionnais les 10 images par seconde, maintenant on pourrait voir des battements cardiaques à 200 images par seconde, mais là ça reste que des coupes. Et aussi, c'est uniquement au stade de recherche pour le moment, mais on peut s'attendre à ce que dans quelques années, ce sera un outil disponible, exactement, donc c'est en plein développement. Comme le mentionnait Laure, donc il y a des problèmes, c'est des problèmes inverses à résoudre pour recréer l'image. Donc, c'est des techniques différentes. Maintenant, lui, il voudrait une image 3D. Donc, en 3D, on a un autre problème. Il faut non seulement travailler sur ce type de technique, mais aussi sur les sondes elles-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on doit acquérir énormément de données, tout ça à des cadences très rapides et avoir un problème inverse, donc une reconstruction d'image propre pour pouvoir guider les chirurgiens. Donc, pour l'instant, il y a quelques équipes qui travaillent sur l'échographie 3D ultra rapide et c'est en voie de développement. Donc, j'espère que de son vivant, il aura accès à cette échographie 3D ultra rapide.
On va le tenir au courant. Merci Damien Garcia pour ces précisions. On va tenir au courant le docteur Adama Sawadogo. Laure Blanc-Ferro, vous parliez effectivement de ces questions de reconstruction d'images. Et vous alliez même au-delà de la 3D, puisque vous parlez de 4D, enfin de trois dimensions, si je ne m'abuse, de l'espace et d'une dimension du temps. Jusqu'où pouvez-vous aller? Quelles sont vos recherches actuellement? Qu'est-ce que vous cherchez à développer en lien, je le rappelle, avec les biologistes, avec qui vous travaillez?
Alors, ce qu'on essaye de développer, ce sont des techniques, à la fois des prises d'images.
Oui.
Donc, est-ce qu'on va prendre une image sous différents angles? Est-ce qu'on va prendre sous le même angle, mais beaucoup d'images en une seconde, etc. Et pour exploiter au mieux toute la diversité des informations de ces observations, pour arriver à avoir des techniques de super résolution. Encore une fois, en microscopie, on peut avoir des résolutions très très fines avec, par exemple, le microscope électronique. Là, on a des résolutions 1000 fois supérieures à celles de la microscopie par fluorescence, qui est de la microscopie optique.
D'accord.
Sauf que, en microscopie électronique, les échantillons sont fixés, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Et on ne peut pas regarder l'évolution temporelle, ou alors il faut admettre que sur les différentes cellules, il va y avoir la même évolution et on va en prendre une à un temps T0, une à un temps T1, etc. Mais si on veut regarder sur du vivant, on est aujourd'hui contraint à l'imagerie, à certains types d'imagerie, dont l'imagerie optique par fluorescence. Et celle-là, elle est limitée en résolution, c'est-à-dire que si vous avez deux molécules qui sont très proches, hein, qui sont inférieures à 200 nanomètres de distance, si on est sur la plaque de verre, hein, donc dans le plan latéral, orthogonal à l'axe du microscope, eh bien, on ne va pas savoir on va voir qu'une tache. On ne va pas voir les deux molécules. Et donc, on essaie de mettre au point des techniques, donc il y en a déjà un certain nombre qui existent, mais on essaie toujours de les améliorer, qui soient à la fois non toxiques pour l'échantillon,
oui,
qui soient le plus rapide possible pour qu'on puisse prendre des cadences d'images, donc des résolutions temporelles assez importantes, et pour lesquelles on puisse avoir des résolutions en 3D, donc ce sont deux problèmes différents en fait, la résolution mm-hmm. latérale sur la plaque, là, sur le plan orthogonal à l'axe du microscope et en profondeur, ce sont souvent des techniques différentes qu'il faut combiner pour essayer d'avoir les meilleures résolutions, super résolution 3D, ce qui permettrait de voir certaines structures. Par exemple, je pense à un virus qui nous occupe beaucoup aujourd'hui encore dans l'actualité et qui lui est de diamètre de 100 nanomètres. Et que donc, voilà, si on veut le voir vivre dans une cellule, eh bien, il faut arriver à accéder à ces techniques de super résolution.
Oui, donc on continue, vous continuez à travailler sur ces techniques, on a bien compris, à combiner. On n'a pas parlé non plus de toutes ces données que vous recueillez, parce qu'elles sont absolument énormes. On va y revenir autour de la question jusqu'où nous entendra l'imagerie médicale, mais puisque vous étiez dans la question des microscopes optiques, je vous propose un petit détour dans l'œil des microscopes de pointe, comme le LIPSI au Nikon Imaging Center de l'Institut Curie à Paris, dans une plateforme de recherche fondamentale sur le cancer qui est à la pointe de l'innovation, en termes d'optique notamment, avec des microscopes dotés d'autofocus, reliés à des ordinateurs, donc totalement autonomes et précis, jusqu'à l'échelle cellulaire et moléculaire. C'est grâce au LIPSI, à cette microscopie de pointe, que les chercheurs de ce laboratoire et de Curie ont pu faire des découvertes remarquables sur la formation des cellules cancéreuses. Visite guidée au sous-sol donc, de l'Institut Curie dans ce Nikon Imaging Center par notre reporter Alice Roujat qui s'est invitée derrière le microscope de l'ingénieur Vincent Fraiser qui observe en direct des cellules humaines.
On voit les cellules, vous voyez, vivantes. Vous allez voir parfois des cellules rondes, voire des cellules mortes. Et donc là, on va pouvoir les observer sur un microscope qui est entièrement piloté par l'ordinateur. Je vais avoir ce champ-là sur 24 heures, mais à l'époque, sans les motorisations, j'observais juste que quelques cellules pendant plusieurs jours. Pendant des décennies, on avait des étudiants qui dormaient devant les microscopes pour faire les mises au point, parce qu'au fur et à mesure, la mise au point, on la perd. Là, l'avantage, je vais avoir des centaines, voire des milliers de cellules, on peut rester des semaines, voire des mois, à observer ça, et après, vous allez voir qu'on verra des cellules qui commencent à se diviser, et ainsi de suite, pour après... Il y a des moments donnés, on va appliquer un traitement, on va voir si ça... Par exemple, des traitements anti-cancer, là, pour essayer de voir est-ce que les cellules se divisent mieux, moins bien. On va avoir vraiment un champ d'application. L'avantage que vous allez avoir sur ce type de microscope, c'est qu'on va pouvoir mettre des milliers d'échantillons en même temps.
Sur un écran d'ordinateur, des petits ronds roses, verts ou bruns, ce sont les noyaux de cellules de tumeurs du sein. Des noyaux cassés signifient la présence de cellules cancéreuses, le professeur Piel explique.
Ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur tout le tour de la tumeur, les noyaux étaient écrasés. Au lieu d'être ronds, ils sont plats. Il y en a plein qui sont tout plats, parce qu'en fait, la tumeur, en grossissant, bon, comme s'il y avait ici une foule énorme, les gens qui se retrouvent contre le mur peuvent se retrouver comprimés contre le mur et écrasés contre le mur. Et donc les noyaux se retrouvent comprimés là contre la paroi et en fait ils vont se casser, c'est ce qu'on a marqué ici en marron, c'est un marqueur qui permet de détecter que les noyaux sont cassés.
L'idée c'est que grâce au microscope LIPSI qui peut observer des millions de cellules à la fois, on parle alors de criblage, les chercheurs reconstituent les phénomènes in vitro.
C'est comme ça qu'on a découvert une enzyme qui s'appelle TREX1. Vous pouvez retenir T-Rex, puisque c'est l'enzyme qui digère l'ADN, c'est un peu comme le T-Rex dans la cellule. Et donc, une fois qu'on a découvert cette enzyme, on a pu mettre au point aussi un système expérimental pour venir écraser les cellules et des marqueurs qui vont dire si les noyaux sont cassés. Ici, quand ils ont des petits points rouges, c'est des cassures de leur enveloppe, et les petits points verts, c'est des cassures de leur ADN. Et donc, en combinant ces marqueurs et ce système d'écrasement, on peut savoir si les cellules ont subi des cassures de leur ADN. Et donc, on sait que si on est capable d'inhiber ce T-Rex de la cellule, en fait, les noyaux vont pouvoir se casser, mais sans qu'il y ait cassure d'ADN. Et s'il n'y a pas de cassure d'ADN, même si les noyaux sont cassés, les enveloppes sont cassées, ce n'est pas grave. Les cellules ne vont pas sortir de la tumeur. Ce qu'on a pu démontrer dans ce travail qu'on a publié l'année dernière. Et donc, à partir de là, ce qu'on veut faire, c'est trouver des molécules qui vont permettre d'inhiber ce T-Rex.
Laure Blanc-Ferreau, je voudrais vous faire réagir à ce reportage d'Alice Rougeat à l'Institut Curie, au Nikon Imaging Center, autour de ces super microscopes qui sont aussi autonomes et qui sont aussi reliés à des ordinateurs. Donc, on est dans l'informatique, le numérique et dans l'intelligence artificielle aussi, immédiatement.
Tout à fait. Effectivement, un très gros progrès a été fait grâce à ces techniques de criblage où on peut acquérir une grande quantité de données en parallèle où vous lancez votre programme le soir et le lendemain, on n'a plus besoin de dormir effectivement devant son microscope. Le lendemain, vous avez des millions d'images de cellules, de développement de cellules pour aller étudier le cancer, par exemple, où on a des types d'imagerie sur lesquelles on va reprendre les dimensions. Donc, on aura 4D plus une dimension spectrale, c'est-à-dire qu'on va, comme ce qu'on disait au début, marquer les différentes structures avec différents fluorophores. Donc, on aura accès non seulement aux noyaux, aux cellules, comme dans le reportage précédent, mais aussi aux membranes, et puis à tout ce qui est à l'extérieur de la cellule, tout ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, dont on se rend compte que finalement, elle est aussi très importante et elle est modifiée par les tumeurs et dans un environnement tumoral. Donc, on essaye de regarder, par exemple, de la fibronectine ou le collagène, qui est un des éléments fibreux de la matrice extracellulaire et qui est présente des fois sous forme de réseau. Et là, en environnement tumoral, on voit que c'est comme s'il était étiré dans une direction. Et donc, ce qu'on essaye d'avoir, c'est effectivement une étude systématique, statistique, sur ces très grands nombres d'images du comportement des cellules cancéreuses et de tout ce qui est matrice extracellulaire pour pouvoir expliquer au mieux le développement des tumeurs et aussi la réaction à des traitements immunosuppresseurs comme on les étudie.
C'est-à-dire que là, finalement, ces imageries, notamment par rapport au cancer, permettent quoi ? Jouent à tous les niveaux, j'ai envie de dire, au niveau de la recherche, au niveau du diagnostic, au niveau de la compréhension de l'évolution des cellules et peut-être même plus tard au niveau de traitements que l'on pourrait amener. Enfin, on est quand même là dans des techniques d'imagerie qui rendent, comme vous le disiez, le corps transparent sans avoir besoin de rentrer dedans, jusqu'au niveau de la cellule, on est quand même là dans des techniques qui ont un très très large spectre, pour reprendre ce mot-là, depuis le début jusqu'à la fin. Oui. Je ne sais pas si vous voulez réagir
là-dessus. Oui, je vais réagir. En effet, donc la recherche en imagerie, on tient compte uniquement, on s'intéresse au diagnostic, mais également au traitement et au suivi des patients. Donc, pour revenir aux marqueurs moléculaires, évidemment, ce serait le Graal pour l'imagerie médicale, d'être capable d'aller chercher spécifiquement une molécule. Mais on va dire, en quelque sorte, c'est fait. On ne cherche pas une molécule, mais un ensemble de molécules. Je vais donner un exemple. Par exemple, si on prend un médicament sur lequel on a mis une molécule radioactive, donc un radiotraceur ou un radioisotope, on peut le détecter par les techniques scintigraphie, ou le PET scan qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc, si on injecte un médicament qui est marqué radioactivement, donc on peut voir où l'ensemble des molécules, évidemment, on ne va pas chercher.
Et comment il agit.
Exactement. Donc, on va savoir, est-ce que le médicament qu'on a généré cible bien l'organe recherché. Et ça, on peut le faire in vivo. Donc, d'abord, évidemment, c'est des études animales, mais éventuellement chez des sujets. Donc, il y a on mentionne l'imagerie et l'informatique, mais il y a aussi toute une panoplie de chercheurs spécialistes, donc en chimie ou en biochimie, qui travaillent dans ces domaines.
Et pour aller à l'intérieur et voir ce qui s'y passe, pour rendre notre corps transparent, l'occasion d'écouter ce morceau que je vous propose de vous glisser entre les oreilles, Transparency, morceau évidemment transparent, signé du chanteur et rappeur de Brooklyn, Kamau.
Show me something, shine. of something beyond the veil. It's hard to tell you. It's hard to move. Show me something, sign of something beyond the veil. It's hard to tell. It's hard to move. My world is hard to see. It all seems dark to me. I know this all just needs transparency.
Transparency, la voix de Camus sur RFI, de circonstances autour du corps en images, votre ouvrage, Laure Blanc-Ferrault et Damien Garcia, autour de la question jusqu'où nous entraînera l'imagerie médicale et biologique, nous rendra-t-elle transparent? Bah justement, nouvel éclairage à remonter le temps, celui du paléontologue spécialiste du cerveau, de l'évolution du cerveau et du crâne des représentants du genre homo, c'est Antoine Balzo, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui nous explique comment, grâce aux techniques d'imagerie, il arrive à étudier, à remonter le temps.
Les techniques d'imagerie sur le vivant aujourd'hui nous permettent d'acquérir tout un ensemble d'informations sur le même individu. On peut imager finalement tous les tissus grâce à l'IRM et faire ressortir au choix l'os, le cerveau. Et donc pour nous, c'est vraiment utile parce qu'on va pouvoir mettre ensemble toutes ces informations-là pour essayer ensuite d'extrapoler ou d'étudier les fossiles. Mais l'autre apport notable qu'on a depuis quelque temps aussi vient des interactions qu'on a de plus en plus avec les neurologues, les neuroscientifiques, les informaticiens qui ont des outils analytiques qui sont d'un autre champ que le nôtre finalement. Nous, on a l'habitude de travailler sur la diversité, de mesurer des petits détails. En neurosciences, il y a un souhait de quantifier avec précision ou de moyenner l'information et d'arriver à faire des atlas, avoir une caractérisation globale de beaucoup d'informations.
Une cartographie, par exemple, du cerveau, par exemple.
Du cerveau, des fibres, des différents tissus, et d'avoir un détail extrêmement important avec des résolutions de plus en plus hautes. Finalement, c'est presque une approche opposé à la nôtre pendant très longtemps. Et c'est vrai que cette possibilité qu'on a aujourd'hui, je travaille avec des neuroscientifiques qui adaptent leurs outils à nos approches et qui nous permettent d'arriver justement à caractériser d'une manière très différente nos spécimens fossiles et finalement de voir des choses qu'on ne voyait pas forcément auparavant. Et donc il y a vraiment tout un vrai champ de progression dans les travaux qu'on peut mener ensemble. Alors c'est parfois difficile de se comprendre parce que justement nos questions ne sont pas les mêmes, nos outils ne sont pas les mêmes. Et quand on discute parfois, on ne se comprend pas très bien, mais quand on arrive à le faire, ça peut être vraiment très profitable et on peut aller très loin pour utiliser nos connaissances actuelles sur l'humain pour essayer de mieux comprendre aussi les fossiles du passé.
Laure Blanc-Ferrault, vous nous expliquez comment finalement, grâce à l'imagerie, on peut couper le corps en tranches sans justement être invasif, et comment on peut couper des fossiles en tranches finalement sans être invasif. C'est aussi en interdisciplinarité toujours un nouveau champ de recherche pour les paléontologues, par exemple.
Tout à fait. Et personnellement, j'ai un projet de recherche avec le laboratoire en archéologie où ils regardent des tessons de vases anciens. Mmh. Et qu'on passe au scanner, hein, et sur lesquels on va regarder la distribution des différents matériaux qui le composent, et en particulier des bulles d'air qui ont été enfermées lors du processus de fabrication. Mm-hmm. Et selon la structure de ces bulles d'air, hein, on peut remonter au processus de fabrication.
Ah,
et voilà, donc ce sont des applications qui sont différentes, hein, encore une fois interdisciplinaires, bien sûr.
Hein, c'est ça, voilà. La clé, j'ai envie de dire, Damien Garcia, c'est ça aussi, c'est cette interdisciplinarité, parce qu'en fait, cette imagerie médicale, biologique. Elle va pour le vivant, elle va pour les objets. Enfin, c'est complètement fou d'arriver à voir finalement l'invisible. Enfin, ou ce qui est à l'intérieur, de oui. le mettre à l'extérieur.
Bien sûr, et ça va même au-delà, d'après moi. Par exemple, on utilise des techniques qui sont utilisées en sismologie. On veut voir l'intérieur de la Terre,
oui.
on veut voir l'intérieur du Soleil, même ce sont toutes des techniques de problèmes inverses, c'est-à-dire on a un aspect seulement et à partir des techniques de problèmes inverses qui sont très similaires en somme toute, on veut voir l'intérieur donc de la Terre, d'un fossile, du Soleil ou du corps humain. Concernant les fossiles, c'est intéressant parce qu'ils utilisent exactement la même technique d'imagerie, c'est le CT, mais eux, ils ont l'avantage de pouvoir utiliser de très haute énergie, puisque
oui, on risque pas
de détruire le fossile qui est déjà détruit.
Bien sûr.
Mais cela dit, ceux qui s'intéressent à l'ADN ancien, donc les paléogénéticiens, eux sont réticents à utiliser ce genre de technique
parce
à très haute,
parce qu'ils veulent conserver
l'ADN ancien qui est évidemment très dégradé.
Ça vous fait donc encore du travail à tous les deux. Je vous remercie beaucoup, Damien Garcia, d'avoir fait voyage depuis Lyon pour être avec nous en direct. Merci, Laure Blanc-Ferraud, d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Azur à Nice. Et merci à la technique sur place à Nice. Je pense qu'on va vous réinviter parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas abordé les données, on n'a pas abordé l'intelligence artificielle. En tout cas, je vous renvoie, chers amis auditrices et auditeurs, sur cet ouvrage collectif Le corps en images, sous-titré Les nouvelles imageries pour la santé, qui est paru aux éditions du CNRS. Et encore merci à tous les deux.
Merci à vous.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi pour fêter les 10 ans de la découverte du boson de Higgs au LHC et les recherches et les découvertes vertigineuses et même quantiques qui s'en suivent. Avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de Radio France Internationale, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.